Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe en direct du studio 41 de RFI avec exceptionnellement une seule invitée. Mais quelle invitée, puisque le quotidien britannique le Times de Londres l'a désignée comme l'arme secrète du président Macron dans le combat sur le Brexit. Notre invitée est la ministre des Affaires européennes. Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour Daniel Desesquel.
Quel compliment de la part d'un journal qui généralement est plutôt avare de gentillesse à l'égard de la France et des Français.
Oui, alors je sais pas si l'arme est si secrète si elle fait la une du Times. Mais c'était sympa, effectivement.
C'était sympa, hein. Ouais. C'est surtout très rare. Hein.
C'est la preuve que le Brexit préoccupe beaucoup les Britanniques et que de temps en temps, ils ont besoin de langage de clarté, amical, mais clair, sur où on en est et où est-ce qu'on peut espérer aller.
Alors avec vous, Nathalie Loiseau, nous allons bien sûr parler de ce Brexit sans fin. Un sommet s'est tenu à Bruxelles mercredi. Il a été présenté une nouvelle fois comme le sommet de la dernière chance et force est de constater qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Nous allons aussi, bien sûr, évoquer l'Italie, les positions du gouvernement sur l'immigration ou la présentation d'un budget fortement déficitaire interpelle les autres Européens. Et à 7 mois des élections européennes, nous interrogerons sur la pertinence du clivage progressiste-populiste cher au président Emmanuel Macron. Pour ce faire, nous sommes entourés de 3 étudiants qui vous interrogeront dans la deuxième partie de l'émission. Je les laisse se présenter.
Bonjour, Marion Gauthier, je suis étudiante en deuxième année d'école de journalisme à l'IFP, l'Institut français de presse de Paris plus exactement.
Bonjour, Mathilde Collet, je suis étudiante en master affaires publiques à l'Institut catholique de Paris.
Et bonjour, je suis Léo Lefrançois, je suis en troisième année de sciences politiques à Paris 8.
Petite précision, vous pouvez nous écouter via le réseau mondial de RFI, et c'est rare, c'est exceptionnel, nous regarder via le site RFI.fr. Nathalie Loiseau, le Brexit, on a l'impression que plus on en parle, moins on y voit clair. Les Britanniques ont voté en 2016, les négociations sur les modalités du divorce ont débuté en 2017, nous sommes fin 2018 et on a l'impression que l'on est pratiquement au point de départ.
Alors, on n'est pas au point de départ. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par le négociateur pour les Européens, Michel Barnier, qui fait un travail remarquable avec ses partenaires britanniques. Nous avons besoin de nous mettre d'accord d'abord sur les conditions de la séparation.
Le divorce.
Le divorce, avant de réinventer une relation future aussi positive que possible, même si la plus positive des relations, c'est d'être État membre de l'Union Européenne.
Alors, tous ceux qui ont divorcé savent qu'un divorce, ça coûte cher. Ça va coûter combien aux Britanniques?
Surtout, on essaye de protéger les enfants. Et on sait, quand on a divorcé, que c'est pas toujours facile. C'est-à-dire protéger la relation entre le Royaume-Uni et nous. Nous nous sommes mis d'accord avec les Britanniques sur le règlement financier. C'est pas le coût du divorce, c'est ce que doit le Royaume-Uni pour la période dans laquelle il a pris des engagements vis-à-vis de l'Union Européenne et qui court jusqu'à fin 2020. Là-dessus, nous sommes d'accord. Nous sommes aussi d'accord sur la manière dont nous traitons, dont nous protégeons les Britanniques qui résident dans l'Union Européenne et les Européens qui résident au Royaume-Uni. Reste un point difficile sur lequel nous n'avons pas encore trouvé d'accord. Comment faire pour que, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, la situation demain soit aussi fluide, simple et pacifique qu'aujourd'hui? On se souvient des violences en Irlande du Nord, on se souvient d'un processus de paix qui a fonctionné essentiellement parce que le nord et le sud de l'île appartenaient à l'Union européenne. Demain, ça ne sera plus le cas. Il faut trouver une solution pour préserver ce processus de paix. Et là, c'est difficile.
Alors justement, ce problème de la frontière entre l'Irlande du Nord, Belfast, et la République d'Irlande, Dublin, c'est le seul problème aujourd'hui? C'est le seul obstacle à la signature de...
De l'accord de retrait, c'est le vrai sujet dur sur lequel on n'a pas encore trouvé un accord. Nous avons fait des propositions, divers types de propositions qui peuvent, si j'ose dire, s'envoyer les unes dans les autres. Maintenant, nous attendons une réponse de Theresa May. Au mois de décembre dernier, nous avions discuté des points les plus importants de cette future séparation. Nous pensions être d'accord. Et puis, quand nous sommes entrés dans les détails sur la question irlandaise, il y a eu un recul de la part de Londres. Maintenant, c'est vraiment à Londres de nous dire ce qu'ils sont prêts à accepter pour faire en sorte qu'il y ait cette absence de frontières dures. On est d'accord entre Londres et les Européens pour ne pas rétablir de frontières, mais aussi pour protéger l'intégrité de l'Union européenne. Si, c'est bien le minimum.
S'il n'y a pas de frontière entre, on va dire, pour simplifier, Dublin et Belfast, il faut qu'il y en ait une entre Belfast et Londres.
Alors, une frontière, non, mais des contrôles, oui. Sauf si le Royaume-Uni décidait de rester dans l'union douanière et dans le marché unique. si le Royaume-Uni décidait... Non, c'est un choix politique à faire. Aujourd'hui, par exemple, la Norvège est dans le marché unique, tout en n'étant pas membre de l'Union européenne. C'est un choix politique à faire par le Royaume-Uni. Ça n'est pas jusqu'à présent ce qu'avait dit Madame May. Mais c'est au Royaume-Uni de trouver cette solution qui accommode à la fois cette préoccupation sur la frontière irlandaise, les préoccupations britanniques par rapport au vote des Britanniques. Et il y a eu un référendum, il y a eu un choix, nous le respectons, mais nous voulons aussi que l'intégrité de l'Union européenne soit respectée. Ça n'est pas nous qui avons pris la décision de quitter le Royaume-Uni, et ça, nous n'avons pas choisi de détricoter l'Union européenne.
Alors, l'horloge tourne néanmoins. Le no deal, c'est-à-dire le divorce sans accord, c'est l'hypothèse la plus plausible aujourd'hui, selon vous ?
C'est une hypothèse possible, ça n'est pas celle que nous préférons. Nous préférons un bon accord et nous pensons qu'il est lui aussi possible. Nous y travaillons. Ceci étant, vous avez raison, l'heure tourne. Il faut, grosso modo, avant la fin de cette année, 2018, qu'on soit totalement d'accord sur l'accord de retrait, parce qu'ensuite, il faut encore qu'il puisse être ratifié par les communes à Londres et par le Parlement européen. Ça signifie que le risque d'une absence d'accord existe. Nous nous y préparons parce que une absence d'accord sans être prêt aurait des conséquences très dommageables. Nous ne voulons pas que ce soit le chaos au 30 mars parce que nous ne nous serions pas rendus compte que nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord.
Alors justement, vous avez proposé lors d'un récent Conseil des ministres une série de mesures oui. pour faire face au no deal au cas où il n'y ait pas d'accord. Un ou deux exemples des mesures qu'il faudrait prendre.
Ce sont des mesures de précaution et je vais demander au Parlement l'autorisation de légiférer par ordonnance pour prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que le 30 mars au matin, les résidents britanniques en France se retrouvent sans papier. Ça n'a pas de sens, ça n'est pas ce que nous voulons. Donc nous sommes prêts à prendre des mesures nationales qui seront exactement réciproques aux mesures que les Britanniques prendront pour les citoyens français. Nous voulons aussi évidemment que l'Eurostar puisse circuler. Simplement, si nous ne faisions rien et qu'il n'y avait pas d'accord, l'Eurostar n'aurait plus le droit de rouler en France et ses conducteurs britanniques n'auraient plus le droit de travailler sur notre sol. C'est évidemment stupide. Nous n'avons pas envie de faire d'une absence d'accord, qui n'est pas une bonne solution, quelque chose de tout à fait grotesque et qui pose des problèmes majeurs. Donc nous prenons toutes les mesures nationales nécessaires en attendant de pouvoir renégocier avec les Britanniques. Mais honnêtement, l'essentiel, c'est de passer un bon accord de retrait. Il est possible. Nous en avons suffisamment discuté avec les Britanniques. Maintenant, c'est à Madame May de se retourner vers son opinion, vers ses parlementaires, de faire la pédagogie nécessaire. Nous pensons qu'elle en a le désir. Nous sommes prêts à attendre.
Mais néanmoins, vous n'aimeriez pas être à sa place.
Écoutez, j'ai l'impression qu'aucun homme politique britannique n'a envie d'être à sa place et que il la critique beaucoup, mais il ne la renverse pas parce qu'ils savent qu'elle a un travail difficile, d'autant plus que dans tous les camps, dans le camp conservateur comme dans le camp travailliste, les gens sont divisés et parfois vous avez des hommes politiques qui ont mené campagne avant le référendum et qui n'assument pas les conséquences de la décision en faveur de laquelle ils ont poussé les Britanniques.
Alors, il y a
choisir
une...
de partir, ça a des conséquences.
Il y a eu une manifestation pro-européenne monstre hier à Londres. Les manifestants réclamaient un deuxième référendum. Ce deuxième référendum, vous le croyez possible ou c'est enterré ?
Alors honnêtement, ça n'est pas à moi de le dire. C'est aux politiques britanniques de choisir et de décider. Je détesterais que, dans une situation comparable, des Britanniques ou d'autres Européens nous disent ce que nous devons faire. Effectivement, nous avons tous vu ces centaines de milliers de gens dans les rues de Londres. Je n'ai jamais vu autant de drapeaux européens au Royaume-Uni ensemble qu'hier.
Oui, c'est amusant parce que depuis que les Britanniques envisagent de quitter l'Union européenne, ils n'en ont jamais parlé autant de l'Europe.
Alors, c'est sans doute un problème britannique. Moi, je voudrais qu'on batte notre coulpe. Partout en Europe, on a eu du mal à parler de l'Union européenne, de ce qu'elle apporte. On a beaucoup fait de Bruxelles bashing, tous. Alors, pas ce gouvernement-ci en France maintenant, mais on a des décennies de victoires nationales et de défaites européennes derrière nous. Et le Brexit, c'est quelque part l'aboutissement de ce comportement politique souvent irresponsable consistant à repousser vers Bruxelles toutes les décisions difficiles.
Nathalie Loiseau, nous allons faire un petit détour par la rédaction du Courrier International, partenaire historique de Carrefour de l'Europe. Bonjour Jerry Feely.
Bonjour Daniel, bonjour Madame la Ministre. Alors, nous avons quelques questions du Service Europe ici à Courrier International. Donc, tout d'abord, sur le Brexit, vous entendez bien mon accent, je suis irlandais et aussi un parti britannique. Alors, ce n'est pas un secret, mais les négociations sur le Brexit sont très difficiles. Nous sommes actuellement dans l'impasse. Est-ce que vous diriez, vous, que la France a l'intention de punir le Royaume-Uni pour avoir opté pour la sortie de l'Union? C'est ce que je suggère quand même, en tout cas, une partie des médias britanniques.
Nathalie Loiseau.
Alors, merci de cette question, parce que le blame game, c'est un sport pas particulièrement britannique, mais quand on est en difficulté, on cherche plus facilement des coupables que des solutions. On n'a aucune intention, la France n'a aucune intention de punir le Royaume-Uni. C'est un allié historique. Ma famille le sait, comme beaucoup de Français. Mes grands-parents ont caché des parachutistes britanniques dans leur cave pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, moi, je suis née, j'ai grandi avec cette histoire familiale. Nous savons ce que nous devons aux Britanniques. Nous avons des relations de défense, de sécurité, mais aussi des relations commerciales. Nous avons des entreprises comme Airbus qui travaillent en France et au Royaume-Uni. Donc, l'idée de punition, elle est totalement éloignée de ce que nous avons à l'esprit. Mais je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, ce n'est pas nous qui avons pris la décision de quitter le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni qui veut quitter l'Union européenne. Et ce que nous lui demandons, c'est de partir sans claquer la porte et sans briser les fenêtres. C'est-à-dire sans faire des dégâts sur l'Union européenne telle que nous la voulons, telle que nous la vivons, telle que nous l'avons construite et telle que nous voulons la réformer.
Alors la position officielle du gouvernement français et des Européens dans leur ensemble, d'ailleurs vous venez de la dire, de l'exprimer, c'est il faut trouver le meilleur accord possible. Mais dans votre fort intérieur, au moment de vous endormir par exemple, Nathalie Loiseau, est-ce que vous ne pensez pas très fort, mais qu'ils s'en aillent ces Britanniques, et ils verront que c'est pas facile de vivre en dehors de l'Union Européenne lorsqu'on est Européen, et peut-être qui sait, dans 5 ans, dans 10 ans, ils voudront revenir, mais sans les exemples dont ils bénéficient aujourd'hui.
Non, il n'y a pas d'agenda caché. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça sera moins bien après qu'avant. C'est pas ni un jeu à somme nulle, ni une win-win situation de le Brexit. C'est une lose-lose situation. C'est moins bien pour les Britanniques, j'en suis convaincue. C'est moins bien pour les Européens, j'en suis convaincue aussi. L'année dernière, je me souviens de Jean-Claude Juncker, qui réagissait à une apostrophe de Nigel Farage au Parlement européen.
Et donc le leader du UKIP, le parti qui a lancé l'idée même du Brexit.
Et qui disait, le Brexit, nous Européens, nous le regretterons toujours, vous le regretterez un jour.
Alors, on va abandonner les Britanniques au moins pour un moment, on y reviendra forcément un moment ou un autre, pour s'intéresser un peu à l'Italie de Matteo Salvini. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que ce dernier occupe tout l'espace politique alors qu'il n'est que le ministre de l'Intérieur et que le Premier ministre s'appelle Giuseppe Conte, on l'a un petit peu oublié. Le gouvernement italien se prépare à la confrontation avec les institutions européennes en présentant un budget prévisionnel en déficit, on va être très précis, de 2,4%, ce qui pose un problème aux Européens et notamment à la Commission européenne, car l'Italie, ce n'est pas la Grèce, c'est la troisième économie de la zone euro. L'Italie peut-elle mettre en péril la monnaie européenne, Nathalie Loiseau?
Alors, nous avons besoin d'une Italie forte, comme l'Italie a besoin d'un euro fort et d'une zone euro forte. Nous nous sommes mis d'accord, souverainement, sur des règles communes, quand nous avons décidé de créer l'euro et d'être membre de la zone euro. Personne ne nous y a forcé. Nous étions autour d'une table. Nous avons choisi ces règles. Et nous ne les respectons pas pour faire plaisir à Bruxelles. Nous les respectons parce que nous pensons aux générations futures. Le sujet aujourd'hui, je ne vais pas donner des leçons de déficit aux Italiens. La France,
on est un peu mal placé, nous les Français,
n'a pas respecté les critères qu'elle avait décidés elle-même. Ceci étant, je relève tout de même qu'en 2019, ce sera la première fois depuis plus de 10 ans que nous aurons respecté les critères de Maastricht pendant 3 ans successifs. Mais je ne vais pas donner des leçons aux Italiens sur le déficit. Ce dont je veux parler, c'est de la dette. Parce que la dette, ça n'est pas de l'argent facile, ça n'est pas le moyen de relancer la croissance quand on n'en a pas trouvé d'autres. C'est faire payer à nos enfants et à nos petits-enfants les choix que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. Et c'est ça à quoi nous-mêmes nous sommes confrontés en France, et nous travaillons à réduire la dette. Nous disons aux Italiens, faites attention, parce que nous sommes ensemble dans le même bateau, nous avons besoin les uns des autres, nous avons accepté des règles communes pour le bien de l'Europe et des générations futures.
Alors justement, à propos des dettes, la dette française, elle a légèrement augmenté cette année.
Parce que nous avons décidé de prendre en charge la dette de la SNCF. C'est une clarification nécessaire Pour autant, la maîtrise de nos finances publiques est quelque chose dans quoi nous sommes fortement engagés. L'État, c'est très net. Les collectivités locales, c'est vrai que nous leur avons demandé un effort. La sécurité sociale, pour la première fois, l'assurance maladie sera à l'équilibre cette année. C'est suffisamment important pour le relever. Là encore, ça n'est pas doctrinaire, ça n'est pas idéologique. C'est simplement qu'on ne peut pas continuer en France à prélever aussi lourdement sur la richesse de notre pays et avoir autant de dépenses publiques quand on n'en a pas les moyens.
Alors l'autre sujet de friction avec les Italiens, c'est bien sûr les migrants. À la frontière franco-italienne, au niveau de Menton, de Vintimille, les policiers français-italiens les refoulent. J'ai presque envie de dire, ils se les refilent.
Alors, pas du tout. Et moi, je veux aller très nettement contre l'instrumentalisation politicienne d'une situation qui est en réalité régie par un accord bilatéral qui date de 1997, qui est l'accord de Chambéry, qui permet une coopération frontalière entre les services de police, entre les services de douane, entre la France et l'Italie. Et cette coopération, elle se passe bien. Je voudrais que M. Salvini aille parler avec les policiers italiens, les douaniers italiens, les policiers français aussi et les douaniers français. Cette coopération se passe bien. Qu'il puisse y avoir de temps à autre des incidents, des maladresses ou des difficultés, parce que la situation est complexe, cela doit pouvoir se gérer en toute bonne foi, avec un souci d'apaisement et pas une volonté de polémique. Il faudrait dire à M. Salvini, qui n'est plus en campagne électorale, que au lieu de s'adresser à une opinion publique et d'essayer de créer un sentiment anti-français qui ne règle rien, nous nous sommes disposés à parler avec lui pour faire en sorte que les incidents, il y en ait le moins possible. Mais quand il se plaint que nous refusons d'admettre des migrants illégaux qui sont entrés en France, nous pourrions aussi nous étonner que des migrants illégaux viennent d'Italie et arrivent sur notre territoire. On ne va pas jouer à ce jeu-là, on ne va pas ajouter de la polémique à la polémique, on va essayer de faire vivre le plus intelligemment possible cet accord bilatéral qui fonctionne au profit de tous.
Il le nie un peu cet accord bilatéral, il n'en parle jamais, Matteo Salvini.
C'est pour ça que j'ai le plaisir de vous en parler. Soit il ne le connaît pas et on sera ravis de lui envoyer, soit il le connaît et à ce moment-là c'est de la politique politicienne et c'est dommage.
Quelles sont vos relations avec votre homologue italien? D'ailleurs je ne connais même pas son nom, le ministre italien des Affaires européennes.
Alors le ministre italien des Affaires européennes, je ne l'ai jamais vu, c'est Paolo Savona. Il avait été d'abord désigné comme ministre italien des Finances et puis finalement le président de la République, M. Mattarella, ne l'avait pas souhaité parce qu'il le trouvait trop anti-européen. Il est devenu ministre des Affaires européennes, mais ce n'est pas lui qui siège au Conseil des ministres européens. C'est Enzo Moavero qui est ministre à la fois des Affaires étrangères et qui siège au Conseil des ministres. Avec lui que je travaille, j'ai de très bonnes relations. On se parle de tout au quotidien. On est des anciens alliés, on est des partenaires, on est des pays voisins. L'Italie est un pays important. Mon souci, c'est pas de faire monter le son. Pour moi, les hommes forts, ce sont pas ceux qui parlent fort, ce sont pas ceux qui s'agitent, ce sont ceux qui agissent.
Alors, au niveau des ministres italiens des Affaires européennes, vous avez quand même un petit film pour Sandro Gozi, qui était le prédécesseur de ce ministre italien.
Vous dites ça parce que nous avons joué ensemble dans une pièce de théâtre.
Exactement.
Absolument. C'était une forme de consultation citoyenne intéressante et un peu nouvelle. Une pièce de théâtre formidable. Je vous recommande d'aller voir, d'autant plus que je n'y joue plus, qui s'appelle L'Europe à la barre, qui fait le tour de France et le tour d'Europe. Et il y avait deux témoins de la Défense un soir, c'était Sandro Gozi et moi.
Et ça, ce jeu, on peut l'avoir quelque part?
Alors, je n'ai pas le programme, mais c'est une troupe de comédiens professionnels du théâtre, mais aussi professionnels de l'Europe, parce qu'ils connaissent très bien leur sujet, et qui à chaque fois font venir deux personnalités extérieures pour parler de l'Europe.
Alors, on va évidemment parler un peu de ces consultations citoyennes que vous avez évoquées, Nathalie Loiseau, dans la deuxième partie de l'émission. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. On vous retrouve dans 3 minutes très exactement, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète que nous présente François Bernard. À tout de suite.
Ткання європейське.
Розумієм тут Європа.
Розкруча Європей.
Ставродроми тіс Європіс.
Трефпункт Європа.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Carrefour de l'Europe, deuxième partie, toujours en direct du studio 41 de RFI. Nous sommes avec Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes. Et Nathalie Loiseau, vous êtes entourée de trois étudiants qui ont hâte de vous poser des questions. Je les laisse se représenter.
Bonsoir, Marion Gauthier, je suis étudiante à l'Institut français de presse à Paris.
Bonsoir, Mathilde Collège, je suis étudiante en master d'affaires publiques à l'Institut catholique de Paris.
Et bonsoir, je suis Léo Lefrançois, je suis étudiant en troisième année de sciences politiques à Paris 8.
Nathalie Loiseau, nous sommes en train de réaliser peu ou prou ce qu'on appelle une consultation citoyenne, disons une mini-consultation citoyenne. Ces consultations citoyennes, vous en avez animé un grand nombre, combien ?
Personnellement, j'en ai animé 52 et partout à travers le territoire... Souvent sans moi, il y en a eu plus d'un millier jusqu'à présent.
Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une consultation citoyenne, c'est quoi ?
C'est un débat avec des citoyens de toutes les origines géographiques en France et en Outre-mer, pas seulement en métropole, de toutes les catégories socio-professionnelles et de toutes les tranches d'âge pour que les citoyens nous disent quelle est leur Europe. Ça se déroule aussi partout à travers l'Union européenne depuis début avril jusqu'à fin octobre. C'est la première fois que 450 millions d'Européens ont le temps de dire de manière qualitative ce qu'ils veulent faire du projet européen.
Alors c'est une idée d'Emmanuel Macron qu'il avait évoquée lors de son intervention à la Sorbonne il y a un an.
Et qui a été reprise par tous nos partenaires européens parce que on n'a jamais eu autant besoin d'Europe. Que l'on parle réchauffement climatique, que l'on parle défi migratoire, que l'on parle sécurité ou que l'on parle numérique, nous savons que ce sont des enjeux qui ne connaissent pas nos frontières et qu'on y répond au niveau européen. Mais jamais l'Europe n'a été aussi éloignée des populations. Et donc reprendre la conversation avec les populations européennes, ça a semblé indispensable à tout le monde, ou plutôt à presque tout le monde, parce que l'honnêteté m'oblige à dire qu'au départ, nous étions 27 États membres à vouloir faire ces consultations citoyennes. Il y en a deux qui se sont retirés, l'Italie de M. Salvini et la Hongrie de M. Orban, ce qui me laisse à penser que la définition du populiste, c'est celui qui ne veut pas écouter le peuple.
Alors, le président se rend justement cette semaine en Slovaquie et en République tchèque, deux pays pas réellement très euro-enthousiastes, en tout cas à travers les gouvernements qui sont les leurs. Le président Macron va animer des consultations citoyennes à Bratislava, et à Prague, non,
À Bratislava, oui.
Et vous en serez.
Et j'y serai. Je serai bientôt à Malte, moi-même, pour une consultation citoyenne. Et j'en ai animé à Zagreb, à Berlin, à Madrid, à Dublin. Non, c'était pas Dublin, c'était en Irlande, mais c'était pas à Dublin. Je pense à notre journaliste de Courrier International qui m'arracherait les yeux. Enfin, non, pas mal de pays européens.
Bon. Ça va servir à quelque chose, ces consultations citoyennes ? Parce que, évidemment, les gens parlent, ont des idées sur l'Europe, mais tous décident à Bruxelles.
Non, alors, justement, les gens parlent, ont des idées sur l'Europe. Ça, c'est déjà une information qui compte. Ceux qui pensent, pas vous, pas Daniel Lesesquelles à Carrefour de l'Europe, mais parfois, dans certains médias, on dit l'Europe, ça n'intéresse personne. Ces consultations sont pleines, elles sont toujours trop courtes, parce que les gens ont beaucoup de choses à dire, beaucoup d'attentes, qui peuvent être critiques, mais des attentes et des propositions. Ce que nous avons décidé de faire, par exemple, en France, c'est que tous les porteurs de projets, tous ceux qui ont fait une consultation citoyenne, en font un compte-rendu qui est mis sur Internet. Et ce sont des experts du débat public qui font la synthèse de ces comptes rendus. Cette synthèse nous sera remise à partir du Conseil européen de décembre. Tous les chefs d'État et de gouvernement viendront avec la restitution des consultations citoyennes qui se seront passées chez eux pour qu'on réforme l'Europe non seulement pour les citoyens, mais avec les citoyens.
Alors les trois étudiants qui ont pris place autour des micros de Carrefour d'Europe s'intéressent à l'Europe bien sûr, et Marion, étudiante en journalisme à l'IFP, l'Institut français de presse de Paris 2, a une question sur le problème de la répartition des migrants.
L'accueil des migrants plus exactement, est-ce que le problème italien, puisque l'Italie a fermé ses portes à l'accueil des migrants, est-ce que ce problème ne révèle pas une inégalité de fait en Europe ?
La question migratoire est une question qui a pris l'Europe de court en 2015, quand ce sont plus d'un million de demandeurs d'asile, en l'occurrence en 2015, qui sont arrivés en Europe. Est-ce que l'Europe a été incapable de répondre ? Je ne crois pas. Je crois que on aurait tort de se couvrir le visage de cendre, parce qu'il y a eu une réponse coordonnée dans l'urgence. Est-ce que la réponse est de qualité et durable ? Je ne crois pas non plus. Nous devons faire en sorte que à la fois les pays par lesquels arrivent les migrants, qui sont pour l'essentiel les pays du sud de l'Europe, les pays voisins de la Méditerranée, soient responsables de l'accueil, mais pas seuls. et ils ont été trop seuls. Il faut beaucoup plus de solidarité. Il faut que arriver en Italie ou arriver en Grèce ou arriver en Espagne, ça signifie vraiment, concrètement, arriver en Europe. Que ceux qui relèvent de l'asile soient immédiatement pris en charge et répartis dans les pays volontaires. Autant le dire simplement, si un pays ne veut pas de demandeur d'asile, il ne sert à rien d'imaginer qu'on le forcera, parce que ça n'est pas exact. Mais il faut que la solidarité s'exprime par tous les moyens possibles. Financiers, mise en place d'experts, aide matérielle à l'accueil des demandeurs d'asile. Et ceux qui ne relèvent pas de l'asile, il faut qu'ils puissent être accompagnés dignement, avec des moyens européens, dans leur pays d'origine, avec un projet de vie.
Alors indirectement, la question de Marion posait le problème des pays de l'Europe centrale et orientale, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, qui justement refusent de prendre une partie de la charge, une partie du fardeau. Alors vous dites qu'on ne peut pas les obliger, mais alors que faire ?
Faire en sorte que la solidarité soit obligatoire, mais que la manière dont elle s'exerce...
Ça veut dire quoi une solidarité obligatoire ?
Que tous les États de l'Union européenne prennent leur part de l'effort, c'est-à-dire financer... En financer, fournir du matériel, fournir du personnel, venir en aide aux pays de première entrée, de premier accueil, pour qu'ils ne soient pas les victimes de leur géographie. Moi, je comprends les Italiens qui nous ont dit, mais écoutez, tout arrive par chez nous, et nous devrions être seuls pour faire face à cet afflux, sachant que en Méditerranée centrale, essentiellement en Italie, il y a beaucoup plus de migrants économiques que de demandeurs d'asile. Et que la question est de savoir si on déboute un demandeur d'asile de sa demande parce qu'il ne relève pas de l'asile, comment fait-on ? Est-ce que l'Italie doit garder sur son sol des migrants économiques illégaux ? Est-ce que nous devons l'aider ? Et est-ce que nous devons aider les personnes à rentrer dans leur pays d'origine ? Surtout, comment est-ce qu'on met fin au business des passeurs ? Est-ce qu'on se résigne à se contenter de savoir ce qui se passe quand les gens sont sur notre sol, alors qu'on sait les traumatismes qui sont subis dans la traversée de la Libye. En Libye, il n'y a pas d'État. On ne peut pas espérer que les droits de l'homme soient respectés en Libye tant qu'il n'y a même pas d'État digne de ce nom. Et puis vous avez derrière l'un des business illicites les plus lucratifs au monde. Aujourd'hui, c'est le trafic d'êtres humains. Est-ce qu'on se résigne à ça ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça ? Là-dessus, les Européens sont d'accord. Beaucoup plus aider les pays d'origine des migrations économiques, et efficacement, plus de moyens, mais des moyens mieux coordonnés, vers l'emploi, vers la formation,
alors,
vers l'investissement.
Je vous coupe, Nathalie Lozot, parce que c'est une question que voulait aborder Mathilde Alvoc.
Justement, vous parlez de solidarité, mais comment est-ce qu'on peut accompagner l'Afrique, les pays d'origine, au-delà d'un aspect financier ? Comment on peut les aider à se développer, surtout à faire face à la démographie qui va encore plus s'accroître ? Comment l'Union européenne peut se positionner pour accompagner ces pays ?
Alors, il y a des éléments de souveraineté. Je ne dirai jamais aux Africains combien ils doivent avoir d'enfants. Mais en revanche, éduquer les petites filles, leur permettre d'avoir une autonomie de vie, c'est aussi leur permettre de faire leur choix elles-mêmes. Et ça peut faire une différence. On l'a vu au Maghreb, où il y a eu un changement démographique à partir du moment où les femmes ont eu accès aux études et à la vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire pendant longtemps. Et je le dis sur RFI, une radio qui diffuse beaucoup vers l'Afrique. Pendant longtemps, les bailleurs de fonds se sont fait concurrence. On voulait être plus intelligent que d'autres pays européens. Dans certains pays, on ne se coordonnait pas assez. C'est stupide. Ça n'est pas comme ça qu'on peut relever le défi, qu'on peut faire en sorte que demain, il n'y ait pas seulement de la croissance en Afrique, parce qu'il y en a, mais du développement crédible pour les populations, que les jeunes se disent que leur avenir, ça n'est pas fatalement de risquer leur dignité en Libye et leur vie en Méditerranée.
Nathalie Loiseau, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Emmanuel Macron sera cette semaine à Prague et à Bratislava. Est-ce qu'il va aborder ce sujet des migrations et de ces pays qui refusent d'accueillir des migrants ? Et sous quelle forme ? Il va leur dire un peu ce que vous avez dit, il faut une solidarité financière. Alors vous ne prenez pas de migrants, mais vous faites un chèque à la fin du mois ?
Ce n'est pas vraiment un chèque à la fin du mois, mais nous en parlons à chaque Conseil européen. Nous en avons parlé en juin, nous en avons reparlé la semaine dernière à Bruxelles. Faire en sorte de définir cette solidarité obligatoire, parce que quand on est membre de l'Union européenne, on ne prend pas ce qui vous intéresse en rejetant ce qui ne vous intéresse pas. Mais sincèrement, Daniel Desesquelles, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution d'installer de force des réfugiés dans un pays qui ne veut pas les accueillir, des réfugiés qui peut-être ne veulent pas non plus s'y installer. Ça n'est pas forcément ça la solution, mais faire en sorte que chacun prenne sa part de l'accueil, faire en sorte que l'accueil soit digne, faire en sorte aussi, et ça c'est une urgence, d'avoir tous les mêmes critères pour l'asile à travers l'Union européenne. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Selon votre nationalité, vous n'attendez pas, les procédures ne sont pas les mêmes, elles ne durent pas de la même manière, les critères pour considérer que vous êtes réfugié ne sont pas les mêmes. Tout ça est aberrant. On ne peut pas avoir une politique de la migration, de l'asile et de l'intégration des réfugiés digne de ce nom en Europe si on ne l'harmonise pas davantage. Bien sûr, on va en parler avec Andrej Babic, avec Monsieur Pellegrini en Slovaquie. Ce sont des sujets dont on se parle souvent. Nous avons des valeurs communes. Nous n'acceptons pas, par exemple, certains, ni en République tchèque, ni en Slovaquie, qui considèrent qu'on ne peut même pas accueillir des gens qui ont le statut de réfugiés, ou certains qui retirent tout crédit à des ONG qui viennent en aide à des réfugiés. Ça n'est pas acceptable. C'est contraire aux valeurs de l'Union. Mais travailler ensemble à une solution intelligente, coopérative, évidemment, c'est ce que nous voulons faire.
Carrefour de l'Europe, nous sommes en direct du studio 41 avec Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, avec Marion, Mathilde et Léo, trois étudiants qui vous posent des questions. Nathalie Loiseau, et justement, Léo, une question sur le rôle de la BCE, la Banque Centrale Européenne.
Oui, alors justement, 2500 milliards d'euros, c'est la somme que la BCE a mis à disposition des banques commerciales depuis avril 2015. Pourquoi ne pas mettre cette création monétaire au service de la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, plutôt qu'à la spéculation financière, comme c'est le cas aujourd'hui?
Alors, la spéculation financière, non. La BCE fait ce qu'on appelle du quantitative easing. C'est ce qui nous a permis de sortir de la crise de la zone euro. Et nous en avions besoin. Et aujourd'hui, bon an, mal an, même si nous devons tirer les leçons de cette crise et éviter de faire payer aux populations ce qu'a souffert par exemple le peuple grec, mais c'est un nous inclusif, c'est-à-dire les institutions, les États membres, mais aussi le gouvernement grec qui reconnaît que ce qui avait été fait jusqu'à maintenant ne doit pas se reproduire. Mais la politique monétaire de la BCE nous a permis de surmonter cette crise et d'être aujourd'hui dans une phase où on peut réfléchir et mieux se préparer à la prochaine crise. Parce que nous ne faisons pas d'illusions. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a la croissance partout en Europe, que le chômage diminue partout en Europe, que c'est durable et qu'on doit s'endormir. Ne pas réformer la zone euro serait une erreur historique. Ceci étant, je reprends votre question, la nécessité de mieux lutter contre le changement climatique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un défi qu'on ne peut relever qu'au niveau européen. Il faut évidemment des politiques nationales, mais on sait qu'elles ne suffisent pas. Le prochain budget européen a pour ambition que 25% des crédits de ce budget soient consacrés à l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique.
Ça ferait combien?
C'est pas assez. Nous disons qu'il faut monter à 40% parce que c'est une priorité, c'est une urgence, c'est maintenant. Nous sommes en train de coordonner la position européenne pour la prochaine COP, la COP24 à Katowice en Pologne. Nous sommes conscients, grâce au dernier rapport du GIEC notamment, que les objectifs que nous nous étions fixés pour 2030, et on sait que l'Union européenne est l'endroit au monde le plus ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique, eh bien ces objectifs ne sont pas suffisants. Il faut les rehausser. On avait atteint ce 2020 dès 2016, alors on pourrait plastronner, se dire on est les meilleurs, tout va bien. Ça n'est pas vrai. 2030, les objectifs que nous nous sommes fixés sont insuffisants si nous voulons rester à 1,5, 2 degrés de réchauffement à la fin de ce siècle. Et c'est déjà, ça nécessite une adaptation forte. Donc nous demandons un prix plancher du carbone. Là-dessus, nous ne sommes pas encore suivis. Il y a des pays qui résistent. Il faut les accompagner. Les pays dont les économies sont très carbonées, je pense à la Pologne, je pense à l'Allemagne, il faut évidemment les accompagner. On va pas dire à des mineurs qui travaillent dans des mines de charbon, écoutez, demain, vous êtes au chômage, mais on s'en fiche, parce que la planète brûle. La planète brûle, c'est une urgence, mais on doit accompagner la décarbonation de ces économies. C'est tout ça. C'est des travaux titanesques, mais vous l'avez très bien dit vous-même, c'est à l'échelle européenne qu'on doit se positionner, être plus ambitieux, plus efficace, mettre en place une taxe carbone à l'entrée dans l'Union européenne pour que nos entreprises qui font des efforts ne soient pas pénalisées par des entreprises extérieures qui n'en font pas, et puis aussi pour avoir des ressources pour le budget européen.
Alors Léo, décidément très prolixe, a une autre question à vous poser immédiatement.
Oui, alors, le président l'avait évoqué dans son discours à la Sorbonne, et puis, depuis plus rien, je vous posais la même question que Nicolas Hulot se posait avant sa démission. Où est passée la taxe sur les transactions financières européennes?
Nous en avons besoin. Mais pour ça, il faut que nous arrivions à convaincre nos partenaires européens. Nous en avons besoin là encore, pour l'affecter, alors on peut l'affecter à l'aide au développement. C'est une des options qui a été envisagée. Et comme nous venons de dire qu'il faut augmenter cette aide au développement, eh bien, il faut les ressources qui vont avec. On peut aussi l'affecter à des projets environnementaux. Pour cela, il faut que nous nous mettions tous d'accord. Nous en sommes loin. Nous avons encore certains partenaires dans l'Union européenne qui vivent et qui raisonnent comme si le statu quo nous réussissait à tous. Comme s'il n'y avait pas une urgence climatique, une urgence au développement de l'Afrique, une urgence à nous préparer à la prochaine crise financière. Ça n'est pas notre point de vue. Simplement, nous ne sommes pas seuls. L'Europe, ça n'est pas la France en plus grand. Il faut une capacité de conviction. Il faut une motivation. Nous l'avons. Il faut une volonté politique. Nous l'avons. Il faut arriver à la faire partager.
Alors, cette question, je pourrais vous poser la même, Nathalie Lozo, sur la taxation des GAFA, où les Européens sont pas d'accord. Quand on voit que l'Irlande refuse, ou en tout cas, essaye de refuser un arriéré d'impôt de 9 milliards d'euros, si je me souviens bien, de la part d'Apple.
Non, ça y est. L'Irlande bouge sur cet arriéré d'impôt. Et je voudrais commencer en rendant hommage à la commissaire Vestager. Elle a fait plus pour protéger les entreprises européennes d'une concurrence déloyale de la part des grands acteurs de l'Internet que qui que ce soit d'autre, alors qu'elle aurait quelque part pu se dire que ça n'était pas tant que ça dans son portefeuille de commissaire. Elle a été courageuse, elle a été déterminée, elle s'est parfois heurtée à l'hostilité de certains États membres, et puis finalement, elle a eu gain de cause. Et c'est elle qui a raison. Sur la taxation des grands acteurs du numérique, nous portons ce projet pas parce que nous sommes amoureux des taxes, mais simplement parce que vous avez des géants de l'Internet qui aujourd'hui font du profit en Europe. N'oublions jamais que l'Europe, c'est le plus grand marché solvable au monde et qui ne payent pas leur juste part d'impôts. Et en ne le payant pas, ils ne participent pas à l'effort européen en vue d'avoir de meilleures infrastructures, d'avoir des jeunes Européens bien formés. Et Dieu sait si ces entreprises en profitent de nos infrastructures et de notre main-d'œuvre bien formée. Et puis, ces entreprises, en ne payant pas leur juste part d'impôts, font une concurrence déloyale à des entreprises européennes. De ce point de vue-là aussi, il y a une urgence. De ce point de vue-là, les choses avancent. L'Allemagne est avec nous. L'autre jour, les pays du groupe de Visegrád, ces pays d'où nous parlions, précédemment sur les questions
Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie.
Qu'il est plus simple d'appeler Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie, avec lesquelles nous ne sommes pas forcément d'accord sur d'autres sujets, nous ont rejoint sur l'urgence à mettre en place une taxe européenne sur le numérique. La Commission a fait une proposition que nous soutenons. Bruno Le Maire, la semaine prochaine, sera à Strasbourg avec Margrethe Vestager. Tiens, ça n'est pas un hasard. Pour pousser l'idée de cette taxe, récemment, ça n'a pas forcément fait les gros titres. Et pourtant, c'était une évolution forte. Le Luxembourg nous a rejoint, considérant que on ne pouvait pas attendre indéfiniment que l'OCDE se mette d'accord, parce que à attendre, on aura ruiné des secteurs entiers de notre économie européenne et on n'aura pas permis à des champions européens du numérique de voir le jour. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est d'ici la fin de l'année qu'il faut qu'on y arrive.
Alors, dans 7 mois, les Européens vont élire, donc en 2019, leurs députés européens, leurs eurodéputés. Ce sera entre les 23 et 26 mai, le dimanche 26 mai pour les Français. Première remarque, on n'a jamais autant parlé des élections européennes à 7 mois de cette élection. Sans qu'ils s'en rendent compte, forcément, les Français ont perçu que leur avenir passait par l'avenir de l'Europe.
Surtout, pour des élections européennes, on n'a jamais autant parlé d'Europe. Parce que, disons-nous les choses, pendant des années, les élections n'avaient d'Européens que le nom. Elles se passaient la même semaine dans toute l'Europe, mais c'est bien la seule chose qu'elles avaient en commun. Les partis politiques faisaient campagne sur des agendas nationaux. Certains sont encore tentés de le faire, et cela se trompe, parce que je n'ai jamais vu les Européens se poser autant de questions sur l'Europe. Ils sentent à la fois qu'elle peut être la réponse à un certain nombre de défis, ceux dont je parlais tout à l'heure, le défi migratoire, le défi numérique, le défi de l'innovation, le défi de la sécurité. Ils sentent aussi que l'Europe est menacée, y compris dans ce qui paraissait un acquis intangible, la paix. Nous vivons aujourd'hui dans un monde plus dangereux qu'hier, autour de nous, à proximité de l'Europe, il y a des zones de conflit fortes. Qu'il s'agisse de l'Ukraine, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'il s'agisse du projet du Moyen-Orient en général. Il y a un djihadisme toujours présent, y compris au Sahel. Donc il y a une inquiétude, j'allais dire, existentielle. Et l'Europe, elle est aussi menacée de l'intérieur par certains qui s'appellent les démocraties libérales, alors que...
Alors, justement, Emmanuel Macron parle souvent d'Europe, pratiquement dans chacun de ses discours. Il se veut d'ailleurs le leader des progressistes face aux populistes. Et c'est-à-dire qu'entre Emmanuel Macron et Viktor Orban, le premier ministre hongrois qui se déclare volontiers le leader de l'illibéralisme, il n'y a aucun espace politique en Europe.
D'abord, je voudrais revenir sur cette expression étrange de démocratie libérale. Ça ne veut rien dire, en tout cas, ça n'est pas démocratique. C'est davantage de la démagogie liberticide qu'autre chose. C'est l'idée que parce qu'on a gagné une élection, on a le droit de restreindre les libertés. C'est le contraire de la démocratie, c'est le contraire de la civilisation européenne et de ce pourquoi on a construit et on a élargi l'Union européenne. On a construit l'Union européenne contre la barbarie du XXe siècle et les pays qui nous ont rejoints, c'était pour sortir des dictatures et du manque de liberté au sud et à l'est de l'Europe. Il ne faut jamais l'oublier. Ensuite, ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est pas installer une division au sein de l'Europe, c'est voir cette division, c'est la nommer, c'est nommer ce danger parce qu'il existe et parce qu'il est en train de gagner du terrain. Pendant des années, à gauche et à droite, on n'a pas voulu dire qu'il y avait un problème. Pendant des années, au PPE, le groupe de la droite traditionnelle au parti, au Parlement européen, on a siégé avec un parti, le Fidesz hongrois, qui attaquait les libertés et on a préféré ne pas regarder parce que ça faisait nombre et faire nombre, c'était être puissant. Mais on peut dire la même chose du parti du PSE, des socialistes et des démocrates. Vous avez aussi des partis, des pays qui attaquent l'indépendance de la justice. Ça n'est pas réservé à un côté ou l'autre de l'échiquier. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est nommer les choses pour décider de les combattre. Parce que ce n'est pas nous qui avons vu... qui avons décidé que Matteo Salvini et Marine Le Pen posaient ensemble un espèce de mélange de posture et d'imposture, parce qu'en réalité, ils ne sont d'accord sur rien. Ce n'est pas nous qui constatons que l'extrême droite progresse en Autriche, en Suède, en Allemagne. Nous en faisons le constat, nous voulons le combattre, nous voulons retrouver les valeurs européennes partout en Europe, et nous sommes déterminés à mener et à gagner ce combat.
Donc les élections européennes dans 7 mois, elles ont inspiré une question à Jerry Fili, un peu dans le prolongement de ce que vous venez d'expliquer, Nathalie Loiseau. Jerry Fili, le responsable des pages Europe de Courrier International.
La République En Marche n'est pas représentée pour l'instant au Parlement européen. Le mouvement d'Emmanuel Macron a-t-il l'intention de faire cavalier seul pendant la campagne des élections ou va-t-il rejoindre un groupe parlementaire existant, par exemple le groupe des libéraux qui lui a fait une offre de ralliement.
Et Marion a une question complémentaire à celle de Jerry Fili de Courrier International.
Vous avez affirmé qu'il y avait des bébés Macron partout en Europe, Nathalie Loiseau. Est-ce que Emmanuel Macron a vocation à devenir le premier de cordée européen ?
Et ils sont où ces bébés Macron ?
Alors, pour reprendre les deux questions, ou les trois, en fait, il y a beaucoup de partis ou d'individus qui veulent nous rejoindre. Parce que depuis que Emmanuel Macron a gagné les élections présidentielle française en faisant une campagne résolument exigeante et ambitieuse sur l'Europe, depuis qu'il a pris ses fonctions et qu'il a fait des propositions pour la refondation de l'Europe, depuis qu'on a mené des combats sur les travailleurs détachés, sur les droits d'auteur, sur beaucoup de projets très précis pour l'Union européenne, il y a beaucoup de gens qui ont envie de... participer à cette dynamique. Hier, j'étais avec La République En Marche dans une réunion avec des progressistes européens, espagnols, italiens, autrichiens, qui souhaitent, belges, qui souhaitent marcher avec nous pour les élections européennes. Alors, la question, est-ce que nous rejoignons le groupe existant des libéraux et démocrates, ALDE pour ne pas le nommer. Nous avons beaucoup de choses en commun avec beaucoup de partis d'ALDE. C'est un fait, c'est exact. Et d'ailleurs, Guy Verhofstadt était avec nous hier. Mais je ne suis pas certaine que les divisions par les groupes que nous connaissons aujourd'hui au Parlement européen seront exactement les mêmes après les élections européennes. Ce que je constate, c'est que en France, le paysage politique a changé considérablement en quelques mois. Mais ça n'est pas vrai seulement en France, c'est vrai à peu près partout en Europe. En Allemagne, je le disais, en Italie, nous en avons parlé. Dans chaque élection locale ou nationale dans l'Union européenne montre que les lignes bougent, montre que le bipartisme ou ce qui y ressemblait a du plomb dans l'aile, montre que les partis traditionnels perdent du terrain. Je pense que le Parlement européen de l'année prochaine ne ressemblera pas au Parlement européen d'aujourd'hui. En ce qui concerne la France, je vais être très honnête, je le souhaite, parce que je nous rappelle, on a vite fait de l'oublier, que le premier parti français représenté au Parlement européen, c'est le Rassemblement national. Donc n'ayons pas, donnons pas de leçons à ceux qui font monter les populistes. Ça a commencé chez
nous. Nathalie Loiseau, la République En Marche et d'ailleurs cherche une tête de liste. Vous?
Écoutez, on n'en est pas là. On en est à travailler à une charte pour rassembler autour de nous en France, parce que la liste nationale sera beaucoup plus large que la République En Marche. Et en Europe, la tête de liste,
on verra,
c'est surtout des gens qui aiment l'Europe.
Merci Nathalie Loiseau d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci à Marion Mathilde Léo d'avoir été à mes côtés. Réalisation audio-vidéo Guillaume Munier, Daniel Desescalos. Que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, le journal de Philippe Le Caplain sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. Priorité santé.